Lis plutôt ta version. Ouais, la tienne des versions, parce que je trouve qu'elle est plus parlante que la mienne. Merci. Romains 12, 11. On a un verset qui est très significatif de notre état d'esprit, ce qui devrait être.
Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance.
Servez le Seigneur. Voyez, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. A priori, il parle de servir le Seigneur à 100%. Hein. Ben, c'est comme ça que je le sens. Et pourtant, quand au plus je le comprends, au plus moi, des pensées inquiètes, mes limitations, mes insuffisances reviennent en tout premier plan. D'ailleurs, je ne vois que ça. Et depuis quelques mois, je ne parle que de mes faiblesses au Seigneur. Mais tu as tort, tu te trompes. Choisis quelqu'un d'autre, enfin en tout cas pour le travail. Je sens vraiment bon, un petit peu le travail dans la prédication, mais je dis Seigneur, je suis tout à fait incapable de le faire, ça c'est sûr et certain. Mais quelque part, ça doit me rassurer parce que c'est pas un travail qui au départ est pour nous, c'est un travail que le Seigneur doit faire. Et quand, certainement par la peur de mal faire, mais il se produit donc en nous. Oui, un certain nombre de conflits, c'était ça mon idée, devant l'enjeu du travail divin. C'est un travail qui me dépasse, qui nous dépasse tous, qui dépasse nos capacités. Et j'ai retrouvé dans des grandes figures de la Bible les mêmes combats, les mêmes faiblesses, les mêmes inquiétudes. Commençons par un grand personnage, et pas des moindres, Moïse. Moïse ou le problème d'identité. En Exode 3:7, on a un court extrait de ce que Moïse va commencer à affronter face à l'Éternel. Tu peux prendre ma traduction. Ouais. Maintenant, tu peux prendre les miennes.
L'Éternel reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens. Pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va, donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu.
Jusqu'à 12.
Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci.
Ok, merci. Alors Moïse est face à un défi gigantesque. Et il se rend compte très très vite. D'ailleurs, sa réponse est assez significative. La situation de Moïse, au moment où il est appelé, est un peu particulière parce qu'il est un simple berger dans le désert de Madian. Il est dans une situation où, à ses propres yeux, ben, il n'est plus rien. Il veut être plus rien. Pauvre Moïse, il a une histoire un petit peu de déraciné. On connaît un peu son histoire, bien sûr. On sait qu'il a été quand même, ça c'est très bien, il a été nourri quand même par sa mère naturelle. Mais il a été élevé dans une maison qui n'était pas la sienne, avec des parents qui n'étaient pas le sien, dans une culture à laquelle il n'était pas préparé au départ. Donc il a été versé dans la connaissance égyptienne, avec tout ce que cela comportait. Ensuite, il a quitté ce milieu-là pour partir comme berger à Madian. Enfin bref, il n'avait plus de repères. Ses repères socioculturels étaient bousculés. En plus de ça, il y avait des échecs dans toute sa vie. Enfin bref, c'est quelqu'un qui voulait n'exister que pour personne. Il était simple berger, c'est-à-dire subordonné à un berger, à Jéthro, hein, qui était son patron. Pourtant, il était appelé à être le libérateur de millions d'Hébreux. Alors, quand il reçoit ce mot d'ordre, ça doit être écrasant, enfin je ne sais pas, mais il doit se dire « Seigneur, tu dois certainement te tromper ». L'immensité de la tâche commence un petit peu à lui faire réfléchir. Il se dit, c'est pas possible, je vais devoir probablement guider un peuple, les enseigner, les reprendre, intercéder, les nourrir. Je ne sais pas du tout comment faire. Enfin bref, complètement perdu. Et en plus de ça, je dois faire face à l'homme le plus puissant du monde de l'époque, c'était Pharaon. Et ça, c'était quelque chose pour lui qui était extrêmement stressant. Donc la condition psychologique de Moïse est extrêmement difficile parce que finalement, il ne sait plus trop qui il était. Mais quand il était en Égypte, malgré toute la connaissance et toute la culture égyptienne qu'il avait eue, il avait eu connaissance quand même du Dieu des Hébreux, et il ressentait l'appel dans son cœur, il ressentait un peu l'appel d'être un instrument pour le Seigneur. Cette première tentative, vous vous souvenez, qui est relatée dans Acte 7, où il a pensé qu'il était comme appelé par le Seigneur et il a dit, tiens, je vais donner un coup de main au Seigneur. Donc il avait quand même une prescience, il pressentit qu'il était fait pour le service de Dieu.
À l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères, les Israélites. Voyant que l'on maltraitait l'un d'eux, il prit sa défense et pour le venger, tua l'Égyptien qui le maltraitait. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer, mais ils ne comprirent pas. Le lendemain, il vit deux d'entre eux se battre. Il s'interposa et essaya de réconcilier les adversaires. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes des frères, pourquoi alors vous faites-vous du mal ?»
Moi, c'est bien. Alors voilà, donc on voit que même les siens ne croient pas en lui. On voit que c'était un échec complet, il a voulu intervenir par ses propres forces, et c'est un échec complet. Même les siens ne croient pas en lui, pourtant, une personne croit en lui. C'est Dieu. Dieu croit en lui. Dieu a continué à croire en lui, c'est-à-dire que Dieu n'a pas cessé d'avoir son plan en tête, et malgré la grosse erreur de Moïse, il a essayé de faire un travail par ses propres forces, il a essayé de prendre l'initiative selon la chair, c'est-à-dire l'initiative par ses propres moyens, et tout ce que ça a fait, c'est qu'il a tué un Égyptien, il s'est retrouvé assassin. L'échec complet en lui-même était révélé, mais il y avait besoin certainement de ces choses-là. Il y avait besoin de ça. On retrouve d'ailleurs dans Pierre, Pierre a fait la même chose, a coupé l'oreille de Malchus. Et là, il aurait dû se rendre compte que par ses propres forces, ça ne pouvait pas marcher non plus. Jésus, là, heureusement qu'il n'a pas coupé la tête de Malchus, parce que s'il avait coupé la tête, l'histoire était très différente. Mais heureusement, il a coupé que l'oreille et Jésus a réparé. Comme il a réparé d'ailleurs toutes les erreurs de Pierre, pour ne prendre qu'un exemple que de Pierre. Alors, il fallait à Moïse absolument une nouvelle identité. Comme nous, il nous faut une nouvelle identité. Bien sûr, le parallèle avec notre nouvelle identité en Jésus-Christ me paraît assez flagrant, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre dans la parole. 40 ans dans le désert, quand il a quitté l'Égypte, il s'est enfui après cet échec, 40 ans dans le désert ont laminé cette estime de soi. Et il s'est retrouvé dans un désert sec. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos du désert d'Horeb, de Madian. C'est sec, aussi bien dans le ciel que sur le sol. Tout est sec et rien. Et là, il a appris vraiment à ne plus compter du tout sur lui-même. Il voulait simplement servir en tant que berger. Quelque part, l'instrument était prêt à servir. J'ai réfléchi un petit peu à cette situation. Je me suis dit, mais il est tout à fait vain de vouloir servir l'Éternel avec cette identité naturelle. C'est tout à fait impossible. Avec notre vieille nature, on ne peut pas servir l'Éternel. Je crois même qu'on ne peut pas ni amener même une personne à Christ. C'est impossible. Impossible. Je crois qu'on ne peut pas ni servir Dieu, ni amener une personne à Christ avec notre propre nature. C'est tout à fait impossible. Il faut chercher ailleurs la délivrance. Alors la question que Moïse aurait dû se poser, la question que je me pose, la question que je vous invite à vous poser, sinon pas « Qui suis-je ?» Moïse le dit, mais qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour que tu m'envoies? Il sait très bien qu'il n'était vraiment pas grand-chose, mais plutôt, qui m'appelle? Qui m'envoie? Nous allons passer à un autre personnage qui a aussi un autre problème, c'est Gédéon. Deuxième partie, Gédéon, on pourrait dire Gédéon ou le manque de moyens. Juges 6, 12 à 15, on a eu un dialogue assez caractéristique.
L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël ? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. »
Merci. Donc on voit là Gédéon complètement stoppé, paralysé par les circonstances qui sont celles du peuple d'Israël, qui sont sa condition. Pourquoi toutes ces choses sont arrivées ? Pourquoi toutes ces choses ? Les souvenirs, où est la puissance de Dieu ? Nous ne connaissons que défaite, que pénurie, et les rasas des Madianites se répètent. Franchement, complètement démunis, on n'a pas moyen de se défendre. D'ailleurs, à ce moment-là, Gédéon est en train de mettre de côté des vivres quand l'ange de l'Éternel lui l'appelle. Donc il est en train de thésauriser un petit peu de vivres parce que, pour essayer de sauver un peu ce que les Madianites espéraient pouvoir grappiller. Mais il se plaint à l'Éternel, quoi. Et ensuite, il pose une question logique, hein, dans ma situation, dans mes circonstances, mais avec quoi délivrerai-je un peuple comme Israël ? Moi, tu m'as bien regardé. Alors, c'est bien parce que faut pas non plus... Bon, est-ce que Gédéon tombe dans une fausse humilité au départ ? Je crois pas. Je crois qu'il était vraiment conscient de sa faiblesse extrême devant ce fléau qui était les Madianites et de l'impuissance. Hein, parce qu'il parle pas un petit peu des chefs religieux qui étaient incapables à ce moment-là aussi de délivrer. Il se pose une question, mais c'est aussi une fausse question. Je pense que la vraie question, c'était pas avec quoi avais-je délivré, mais avec qui. Et c'est un petit peu la question que nous nous posons. Avec qui vais-je délivrer, par exemple, les gens de mon quartier, la famille Comment vais-je témoigner Avec quelle puissance vais-je pouvoir toucher les cœurs Vais-je pouvoir chasser tout ce qu'on appelle ténèbres dans le combat spirituel, qu'on en parle souvent, avec quoi ? Mais plutôt avec qui ? Qui va le faire ? Nos ressources, nos provisions, à nous, sont bien maigres. Ça, c'est certain. Mais Dieu nous dit, et j'avais reçu ça en prière, ne regarde plus aux circonstances. Mais le secours vient toujours d'en haut. Quand j'envoie quelqu'un, quand j'appelle quelqu'un, je donne le vouloir et le faire, mais je donne également la provision. Je donne les moyens aussi financiers. Moi, je vois bien en ce moment, je voudrais bien changer un petit d'orientation, je voudrais bien changer de métier. Je sens que je crie à Dieu pour cela. Et je me rends compte que de temps en temps, je dis « Oh, je suis un peu comme Gédéon. Oh, mais avec quoi je vais réussir à le faire ? Avec quoi je vais me délivrer de cette situation pour entrer dans une autre ? Avec quoi ?» Et je me dis « Ben oui, je vais demander à tel responsable, je vais demander une formation et je m'adresse à la mauvaise personne. » C'est bien, il faut quand même que je fasse une demande écrite, hein. C'est sûr, il va falloir que je fasse une demande écrite, il va falloir que je fasse... J'ai fait une première démarche, un des directeurs, j'en ai parlé à ma surveillante, ma nouvelle surveillante, je lui ai dit, écoute, moi je veux faire ça, c'est bien, ça il faut le faire, c'est certain, il faut quand même montrer qu'on est volontaire. Mais, si je sais très bien, si je ne demande pas à l'Éternel, les portes ne vont pas s'ouvrir. Les appuis humains, Gédéon a dû y penser comme je peux y penser moi-même dans ma propre situation, ou dans votre situation, je ne sais pas quelle est la vôtre, quelle est votre demande aujourd'hui. Mais je suis certain que Gédéon a dû se dire, mais combien j'ai de chars, combien j'ai d'hommes en Manassé, Ephraïm, combien j'en ai, est-ce que ça va aller tout de suite ? Bon, c'était insuffisant. Donc il n'y avait pas des moyens, il sentait que les moyens n'étaient pas à sa portée. Je comprends qu'il a dû trembler de tous ses membres. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais l'œuvre de Dieu, à travers toute la parole de Dieu, on voit qu'elle s'est faite toujours sans les moyens humains, sans la stratégie humaine, sans les ressources humaines. Dieu a toujours pourvu à que la réalité de son plan puisse se faire par sa force et par ses moyens. C'est Ismaël Sadok que j'aimais beaucoup entendre, et je n'ai pas entendu souvent de ma vie, malheureusement, il nous a quittés. Il disait, vous savez, quand Dieu envoie quelqu'un, il donne le moyen de le faire, il accomplit lui-même la mission. Quand Dieu envoie quelqu'un en mission, il accomplit lui-même la mission. Ça m'avait beaucoup aidé. Quand j'avais entendu ça, j'ai dit, tiens, ça m'avait relancé un peu ma foi. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons une ressource fondamentale, c'est Jésus. Ce matin, on l'a chanté, bien, très beau chant. Annette a dit des choses aussi qui m'ont beaucoup touché par rapport au fait qu'il était tout seul. On a vu aussi la désertion de ceux qu'il avait formés. Apparemment, c'est un échec. Hein. La formation des disciples, c'est un échec, apparemment. Hein. Mais Dieu avait, Jésus avait semé, il avait confiance au Saint-Esprit. Mais notre seule ressource, c'est Jésus. Et nous avons dans Matthieu 28 une promesse fondamentale pour notre foi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est fondamental, cette pensée-là. Pour moi, elle est fondamentale. C'est-à-dire que tous les jours, je me lève, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tout à l'heure, Dieu est à ma droite, on parlait de ressources. C'est vraiment extraordinaire. Donc, soyons rassurés, le Seigneur a prévu une provision pour la route. Chaque jour, pour chaque enfant de Dieu, en Christ, notre foi doit y puiser tous les jours, au quotidien. C'est une nourriture céleste. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et par les moyens de l'Éternel. Dieu fait le don, heureusement, de ses forces surnaturelles pour vaincre tous nos géants, toutes nos peurs, ce qui est visible et dans l'invisible. Pour Gédéon, c'était des Madianites. Pour nous, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une personne, un groupe de personnes, ça peut être une situation, ça peut être venir ici, dans le micro, et commencer à parler, commencer à faire quelque chose, à produire quelque chose. Alors, c'est très curieux parce que, moi là-dedans je me retrouve bien, parce que d'un côté j'avais très peur d'être ici, et j'ai reconnu ça devant Dieu, je reconnais devant vous, j'étais très frébile, j'avais peur, et en même temps je suis un peu frustré qu'il n'y a pas plus de monde, c'est quand même bizarre comme sentiment. Je suis frustré, j'aurais aimé voulu que la salle soit pleine à craquer. C'est curieux, alors que j'ai peur. Vous comprenez? Mais c'est une bonne peur. C'est-à-dire que je me sens incapable. Je dis, Seigneur, je suis incapable de faire ça. Je sens que le Seigneur m'avait parlé de la prédication plus européenne. Je dis, mais Seigneur, tu te trompes. Je suis incapable de faire ça. Prépare un texte, je ne veux pas le faire. Bon, Jean-Luc était au courant de ça. Mais Seigneur, bon, et c'est très bon, je pense que c'est très bon. Si vous sentez capable de faire quelque chose pour Dieu, c'est pas bon. Si vous vous sentez capable de tout faire pour le Seigneur sans lui, c'est pas bon. Si vous dites, franchement, moi, j'ai pas besoin de lui, là, il y a un gros problème. Si vous dites, là, je suis incapable de le faire, j'ai très peur, je vous dirais franchement, parce qu'on est entre amis, mais il y a 15 jours, je voulais téléphoner à Jean-Luc, lui dire, écoute, je crois que je vais pas être là dimanche. Et c'est vrai, hein. J'ai dit, je vais appeler Jean-Luc, je vais inventer une histoire à part avant, je ne viendrai pas le faire, je ne préparerai rien, mais je suis sincère, hein. Mais à chaque fois que je voulais le faire, j'étais coupé dans mon élan. Donc Dieu confirmait. J'arrive ici, Philippe, enfin, le prédicateur. Il va me foutre la trouille, qu'est-ce qu'il fait là? Jacques, ça te va bien, t'es fait pour ça. C'est pas possible ça. Au boulot, on me dit, mais Philippe, t'as loupé ta vocation. T'aurais dû servir dans l'église. Mais je sais pas. Et j'ai été écrasé toute la semaine, un peu comme ça. Enfin, écrasé. Je sentais bien que j'allais quand même le faire. Mais j'avais vraiment peur. Et je suis maintenant pourtant frustré de voir que la salle n'est pas pleine. Et vous savez, c'est terrible parce que j'ai pas prié pour ça. Merci Jacques, un peu. Ah, d'accord. Bien. Donc on va reprendre un petit peu notre... Donc, on a développé cela. Troisième personne qui me paraît extrêmement importante, c'est Jérémie. Moi j'aime beaucoup Jérémie. J'ai lu plusieurs fois. Jérémie ou le sentiment d'incapacité. Jérémie 1, versets 4 à 10.
L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, « Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter.
Amen, merci. Tout de suite, Jérémie regarde à ses propres faiblesses. Il regarde à la faiblesse de sa propre parole, sa capacité à parler. Par rapport aussi à sa jeunesse parce qu'il était jeune, par rapport aux anciens d'Israël, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais allez voir les anciens d'Israël, quand on est jeune comme ça, je ne sais pas dans quelle était sa situation religieuse à cette époque-là, mais il fallait quand même le faire. Et sa jeunesse aussi dans le ministère, parce que bon, il débutait. Il présente à Dieu ses manques, il présente à Dieu ses handicaps, qui lui paraissent tout à fait insurmontables. Je le comprends, c'est tout à fait louable. Et Dieu lui propose tout de suite d'échanger sa force contre ses capacités. On sent vraiment que le Seigneur lui dit, mais écoute, t'inquiète pas, je serai avec toi, je touche ta bouche, je fais en sorte que ça fonctionne. Et on retrouve un texte assez révélateur dans Jérémie 15, 19.
Voici la réponse de l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est vil. Tu seras mon porte-parole. Ils reviendront à moi. Mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux.
Ok. Donc on voit à un moment, Jérémie a un moment été appelé, il a dû marcher un peu avec le Seigneur, mais sa parole, durant toute sa vie, a été contestée jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Quand on lit les derniers versets de Jérémie, il dit « Faites ce que vous voulez avec moi, mais ce que je vous ai dit est vraiment de l'Éternel. » Il a tout le temps été contesté. Hein, il a un peu une figure aussi de christique, parce que, comme Jésus-Christ, on a toujours contesté sa parole, les chefs religieux ont toujours contesté sa parole, ben, Jérémie a vécu ça. C'était très difficile pour lui, il a un ministère difficile. Hein. Mais Dieu lui dit, tu seras comme ma bouche. Toi, plutôt, cherche la face de Dieu, sois près de moi. Tu reviens à moi, c'est très bien. Ce sont les autres à revenir à toi, puisque tu es avec moi. Donc, Dieu se propose d'aider nos handicaps. Et remercions le Seigneur qu'il met sa force dans nos faiblesses. Heureusement que notre capacité, donc, est divine. Ça me rassure. C'est souligné de manière très, très forte dans 2 Corinthiens 3:5.
Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu.
Voilà. Donc cette capacité, en fait, compte est uniquement spirituelle. Elle provient que de Dieu. Et heureusement que notre message est divin. Le message de Jérémie était divin. D'ailleurs, il dit même à un moment, je ne peux pas me contenir ce que tu me donnes, ça me brûle, c'est obligé de sortir. Donc finalement, c'est la parole de Dieu qui prévaut. Donc Dieu demandait simplement de dire simplement ce que Dieu mettait sur son cœur. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu, on le sait. Hein, Dieu dit à un moment, Jérémie, ma parole casse le roc, brise tout sur son passage, donc ne t'inquiète pas, ça va fonctionner. Et sur tes lèvres, il met un message qui libère. Qui libère peut-être la semence divine que Dieu met en nous. Au moment, donc la vraie question, en fait, compte, je me suis rendu compte que la vraie question n'était pas je ne sais pas parler, je ne sais pas faire, mais plutôt parlait-il quand je parle? Pour ceux qui marchent par la foi, évidemment, c'est la question fondamentale, parle-t-il quand je parle? C'est ça que je me suis posé la question. Et à ce moment-là, si lui, il parle quand je parle, par la foi, le message de Dieu est libéré. On libère la vie, on libère l'amour, on libère la paix. On devient des artisans de paix. Quatrième personnage, et pas des moindres également, quatrième chapitre, Paul. Paul ou le sentiment d'indignité. On retrouve Paul dans une déclaration assez importante, dans 1 Corinthiens 15, s'il te plaît.
En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace, loin de là. J'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
Amen. Donc Paul se sent tout à fait indigne de l'honneur de servir le Christ, Dieu. Son passé d'homme violent, d'homme de sang, lui donne l'impression d'être indigne, mais d'être disqualifié par rapport au service que Dieu lui demande. Mais nous ne savons pas avec nos mérites, nous, nos savoirs religieux, ni notre piété, notre justice, du tout. Paul a dû apprendre à laisser tomber cela. Nous apprenons dans notre expérience de tous les jours que personne n'est digne de servir le Seigneur par nos propres mérites. Paul, quoique se considérant comme le plus grand des pécheurs, a été un instrument de qualité, un instrument de salut pour le monde. Pas seulement que pour son époque, mais pour le monde. Dans 1 Timothée 1,16, on retrouve également, il souligne quelque chose d'important.
Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle.
Donc on voit vraiment Paul qui est vraiment dans l'humilité, j'allais dire, ultime, c'est-à-dire que vraiment Dieu se sert de moi pour montrer justement à tous les pécheurs, même le plus grand des pécheurs, que Dieu peut se servir de n'importe qui pour que son œuvre s'accomplisse. Et ça, c'est très, très, très encourageant. Merci pour ces paroles. Et dans 1 Timothée 15, le verset juste qui est avant.
La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux.
Et on voit, dans cette épître-là, on voit quand même les progressions. Au départ, Paul se considérait comme un grand apôtre. Et vers la fin de sa vie, il dit « Je suis le plus grand des pécheurs ». Alors on voit le travail vraiment de révélation de sa propre nature, de ses propres faiblesses, de ses propres incapacités. Et c'est lui qui après va pouvoir crier « Mais je ne peux rien me vanter qu'autre chose que ce Christ a fait par moi et à travers moi ». On retrouve ça dans Moïse, on trouve ça dans Gédéon, on trouve ça dans Jérémie, on trouve ça chez nous. Dans Éphésiens 3:8, on trouve cette expression « la moindre des saints ». Si tu veux bien simplement...
Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs, les riches, ces insondables du Christ. Et...
Non, pardon. Compris.
Oui, il fallait un quoi que... C'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière... pour tout homme, la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité.
Amen. Amen. Oui, donc on voit que le plan de l'Éternel s'accomplit à travers toutes les époques. Donc il va forcément s'accomplir à travers nous, présents, ici dans cette salle. Et ceux peut-être qui ne sont pas encore convertis. Alors moi-même, je me suis dit, ben c'est tout, si Dieu nous appelle, vous vous souvenez de l'intervention de Mario, qui dit que Dieu nous a choisis, nous sommes des élus, Dieu nous a choisis, donc pas en fonction de ce qu'on pouvait être dans la vie naturelle, de ce qu'on a pu acquérir, quoi que ce soit. On a vu que Moïse, quand il était appelé devant le buisson ardent, ôte tes souliers, c'est-à-dire ôte ton savoir, ôte ce que tu sais encore, ôte ce que tu crois être, et mets-toi dans le territoire là où je me trouve, là où les sentiments, les pensées ne sont que de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, mets-toi à mon école, à mon écoute. Mais tu n'as besoin de rien d'autre que ça. Et c'était vraiment la croix. Hein. Donc, je me suis dit, mais si Dieu nous appelle, il sait, lui, ce qu'il fait. En fait, notre passé ne doit plus nous arrêter. Si notre cœur nous condamne, nous pouvons confesser nos péchés. 1 Jean 1,9, hein, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon de les pardonner. Donc ça c'est bien, on a cette assurance-là. La repentance nous permet de régler ces problèmes-là à chaque fois et de continuer notre route avec le Seigneur. Alors, la vraie question dans ce paragraphe-là, c'est pas « suis-je digne de servir l'Éternel ?» Mais est-ce que l'Éternel, est-ce que Jésus est digne que je le serve ? Alors en conclusion, en tant que servante et serviteur, nous avons forcément à chaque fois un choix à faire. Un, ne pas se laisser arrêter, connaître notre identité en Christ. Ne pas se laisser stopper par les circonstances, par les moyens. Et prendre une position de victoire sur nos différents problèmes, sur les 4 problèmes qu'on a vus. Problème d'identité, de circonstances, d'handicap, et d'indignité. Alors, je ne sais pas quel est le service pour chacun d'entre vous. Il doit être forcément formidable, parce que c'est choisi par Dieu. On parle souvent que chacun ici a un ministère. Jean-Luc en a parlé la dernière fois. J'y crois de toutes mes forces, donc on est plusieurs à y croire, c'est bien. Si j'ai demandé à Monique de venir, parce que je crois vraiment que c'est quelqu'un qui est... C'est la première fois que je ressens ça, qu'elle doit être dans le sillage des évangélistes. Je crois, je suis très content qu'elle partage avec moi la bénédiction de la parole. Je lui ai demandé de venir, elle est venue, elle a eu raison. Elle sera bénie pour ça, certainement, parce qu'elle l'a fait. Je crois qu'on monte tout seul, je ne crois pas. Je crois qu'on a tous besoin des uns des autres et que l'Église doit aspirer, et les responsables aspirent, je pense que c'est le cas de Jean-Luc, mais de partout, enfin, tous les prédicateurs que j'ai entendus, que chaque enfant de Dieu réponde à son appel. C'est-à-dire qu'il arrête de présenter des excuses, enfin, qu'il le fait dans le secret de son cœur avec le Seigneur, qu'il règle ce problème-là et qu'il commence simplement à rentrer dans son appel. Alors, je me tourne un peu maintenant vers Jean-Luc hein, pour savoir si éventuellement, est-ce que ce n'est pas le moment peut-être pour l'un et les autres de prier les uns pour les autres? Peut-être, est-ce que j'ai répondu, avez-vous répondu aux questions peut-être que je me suis posées, que j'ai posées? Quelle liaison peut-on faire? Est-ce qu'on va se mettre à prier par rapport à ces sujets-là?